Allez! De signe en signe d'appel en intuition, entendre les balises muettes vers le petit bout de lumière.
(1983-1987) Mémoire d'espace scénique, mémoire de scène, séquence, représentation et répétition, composition.
Et on se rend compte que dans toute l'étoile des mémoires de scène, on a là encore un espace qui est borné, mais ouvert, de la même manière que la cour de la Boissière était bornée, mais ouverte. En général, sur la droite, il y avait... c'est pas un carré de bâtiment, c'est un U qui permet justement un échappatoire. Donc là, au niveau des mémoires de scène, l'ouverture, elle est visible par une porte, donc une porte qui diffracte une lumière très intense, en général au fond de la scène, et qui donne un peu justement, qui éclaire cette scène. Donc c'est un éclairage indirect. Donc une autre remarque qu'on peut faire immédiatement, c'est l'apparition de personnages. C'est la première fois que les personnages apparaissent. Donc ce sont des personnages qui sont assez fantomatiques, je dirais, hein, donc comme habillés par une sorte de linceul, qui ressemblent un peu à des fantômes, et qui peuplent cette scène.
Mais j'ai toujours d'ailleurs le désir de déchiffrer le monde dans lequel je suis. C'est comme si je suis devant une énigme et il faut que je creuse cette énigme pour en trouver un sens. Et à toute cette époque-là, j'ai cherché avec les outils dont je disposais, quoi. J'étais comme dans une énorme pièce obscure et je cherchais finalement dans l'ombre, je cherchais. C'est comme si on est dans une pièce entièrement noire et qu'on cherche à définir dans quel espace on est. Donc on définit en touchant les objets, on définit en marchant dans la pièce, on définit en touchant les murs, en sentant l'odeur, en regardant la moindre petite ombre ou la moindre petite bribe de lumière. Et on croit que le monde complet et là, puisque on croit voir alors qu'on est dans le noir, et c'est un peu cette sensation-là. Donc cette recherche éperdue de contact avec ce qu'on croit être le monde complet. J'ai aussi cherché cette appréhension du réel dans l'aspect aussi théâtral, dans les mémoires de scène et dans la mémoire qu'on pouvait avoir d'une chose et non plus sa perception. J'ai donc fait vraiment une grande série de toiles sur ce décalage entre la perception directe et la perception en mémoire.
Quelle importance attribues-tu au terme mémoire quand on parle de cette série comme mémoire de scène ?
Alors la mémoire, je la verrais, disons, dans la notion de rêve, théoriquement. On oublie le rêve, d'autant mieux qu'il a été assimilé en fait accepté, disons. Et la mémoire, en fait, ça mesurerait un peu ce degré d'acceptation, c'est-à-dire ce décalage entre ce qu'on conserve et puis ce qu'on oublie, quoi, en fait. Je vois ça par rapport à la notion de rêve, quoi, de rêve éveillé, de... quasiment de cauchemar d'ailleurs, parce que là les teintes, bon j'ai pas parlé des teintes, mais c'est encore les mêmes teintes très sombres, avec ce vert là qui devient de plus en plus froid. C'est pas un espace qui est accueillant, qui est chaud, et même la lumière qui est tellement saturée, elle est plus violente que elle fait plus peur qu'elle ne réchauffe, quoi. C'est
monde onirique. Théâtralité, mise en scène d'un espace-temps de vie, des plans, côté court, côté jardin. Dédale d'une Venise géométrique, lieu de recherche, peut-être de rencontre. Perspective trompeuse. Monde de mystère en ces lisses jardins clos de murs carcéraux. Couple d'humanoïdes étonnés. L'enfant d'eux se détache. Premier pas vers le troublant secret des coulisses de la vie. À lire par une belle voix de femme.
Je me suis dit, il faut que je travaille de ma structure de perception. Alors j'ai travaillé la composition pure, c'est-à-dire comment organiser un tableau, et tout à fait abstraitement. Et avec ces modes de composition-là, je me suis mis à regarder à travers le filtre de cette composition. Et là, j'ai découvert d'autres choses. Et ces autres choses m'ont permis d'agrandir mon espace, de découvrir comme un explorateur. Hein, donc, il y a un lien entre la composition, la perception et la mémoire. Donc, j'ai fait des nouvelles compositions, j'ai perçu autrement, du coup, ma mémoire s'est enrichie, du coup, ma perception s'est enrichie, etc. Et j'ai fait tout une espèce d'énergie, j'ai mis en place une énergie comme ça, qui m'a permis de me construire des instruments de perception. Et la mémoire aussi m'a rendu malgré tout plus modeste, dans la mesure où finalement, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose quand, de tous les milliers de détails qu'on peut observer, l'essentiel, c'est pas grand-chose. L'essentiel, c'est plutôt de l'ordre de l'attitude, du mouvement. Et c'est pour ça que j'ai après beaucoup travaillé le mouvement lui-même, la qualité du geste. Parce que ce qu'on perçoit, c'est pas tellement tout le grand discours, tout le, par exemple, l'habillement ou le décor et tout ça. On perçoit ce qui fait l'ensemble des gestes qui sont contenus dans toute une ambiance, dans tout un décor, dans tout un paysage, etc. C'est ce qu'on perçoit, et finalement, c'est ce que j'ai. Là, c'est ce que j'explore actuellement. C'est non plus l'écran de tous les signaux qui sont envoyés, mais quel est le geste qui est contenu dans tous ces signaux. Et ce n'est plus du tout la figuration, c'est quelque chose d'imperceptible et pourtant d'extrêmement réel, puisque c'est ça qui nous fait agir, qui nous fait réagir, qui nous fait... c'est absolument pas du tout ce que je pensais au départ, ce que j'avais comme a priori au départ.
Les années 90 ont vu s'estomper l'importance des avant-gardes artistiques et des métropoles économico-créatives de l'art. Le milieu de l'art est aujourd'hui atomisé et la scène artistique ressemble à un tableau de Jackson Pollock avec ses multiplicités de réseaux de la scie et de tâches. Nous avons demandé à Pierre Desvaux s'il se situe dans l'un ou l'autre courant que leur médiatisation met sur le devant de la scène.
Je ne me sens pas faisant partie d'un courant d'art actuel. Même si j'en fais peut-être partie, mais si j'en fais partie, c'est involontaire, c'est comme ça, à la limite sans le savoir. Globalement, moi je trouve qu'il y a une peinture très bruyante et une peinture plus silencieuse. À ce moment-là, je me situerai dans la peinture qui est plus silencieuse.
Quelle est la peinture bruyante ?
Moi, je dirais tout ce qui est issu de l'expressionnisme, y compris l'expressionnisme actuel, qui a d'autres noms et tout ça. Mais par rapport à comment définir ma peinture actuellement dans la société, etc., j'ai l'impression, moi, ce que j'ai envie de faire pour moi-même, c'est des sortes de plages de silence, qui ne sont pas toujours très silencieuses, mais c'est des plages qui ne sont pas liées au temps. Au temps qui est très rapide actuellement. Pour moi, j'ai besoin de tableaux qui m'offrent une durée, quelque chose qui est hors du temps, hors du temps actuel, même s'il est inscrit, il s'inscrit dans le temps, puisque je suis aussi dans le temps. Tout va plus vite, on zappe de plus en plus, on veut toujours autre chose. Il y a comme ce que je ressens, c'est une fuite en avant avec tous les jouets qui sont à notre disposition. Et il y en a, c'est vraiment merveilleux. On peut inventer des tas de choses avec tous les outils infographiques en particulier qu'il y en a, ou vidéo. Moi, je me sens comme un gamin devant un magasin de jouets dans lequel il pourrait faire tout ce qu'il veut. Et voilà un petit peu ce que je ressens de tout ce qui se passe d'une façon artistique avec tous les instruments modernes et tout ça. Mais le fait est que une fois que je suis dans ce magasin de jouets, je suis saturé, complètement saturé. J'ai plus envie de jouer, j'ai trop de jouets, quoi. J'ai trop de choses. C'est un peu comme ça que je ressens la chose. Alors du coup, je retourne dans mon atelier et puis j'essaye de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire de prendre mes mains, de réveiller mon geste, de chercher des couleurs, de les poser sur une toile, et de faire un travail qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus en retrait, mais aussi beaucoup plus profond pour moi-même. Et j'essaye de faire un travail qui me laboure plutôt qu'un travail qui s'éclate un petit peu partout. Et évidemment, ça a l'air d'être un peu décalé parce que ça n'a pas l'air d'être la mode, hein, c'est-à-dire le flux dominant, etc. Mais je pense que c'est pas parce que c'est pas le flux dominant que ça n'existe pas. C'est quelque chose dont j'ai besoin, dont beaucoup de gens ont besoin profondément. Il y a je pense que plus justement la technique est folle, plus c'est un magasin de jouets extraordinaire, plus on a besoin d'un truc profond et simple. Ça me paraît, moi, vital pour moi-même. Pourtant, j'aime bien tout ce qui est de la technique et tout ça, mais j'arrive pas à le raccorder dans mon propre élan, quoi.
Est-ce qu'on pourrait avancer que la peinture est une forme de résistance à cette frénésie technologique?
Moi, je dirais pas que c'est une résistance. C'est plutôt une issue de secours par rapport à tout ça. C'est-à-dire, la peinture me permet d'avoir un petit détachement et un recul par rapport à quelque chose qui va beaucoup trop vite. On est dans une époque où on appuie sur on ou sur off et on a tout ce qu'il nous faut. Et on a l'impression que sur un tableau, si on appuie sur on ou sur off, on aura tout ce qu'il nous faut dans le tableau. Alors que c'est pas vrai. Alors qu'un tableau demande un effort d'approche, quoi. Demande une certaine culture, un certain apprentissage pour pénétrer un petit peu le tableau. Et il n'y a pas de bouton on et off sur un tableau. Un tableau vient de très loin et il arrive pour donner une qualité au présent. Mais cette qualité au présent, elle est pas immédiate, je ne la vois pas immédiatement, je ne la ressens pas immédiatement. Mais c'est vrai que elle n'est pas de surface.
Hein?
Oui, c'est une mémoire globale. C'est comme le tableau contient tout à un moment donné. Et la surface extérieure du tableau n'est que l'aboutissement de plein de choses, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas visible de façon rétinienne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas... Enfin, je ne peux pas faire des tableaux
qui ne parleraient que de l'immédiateté.
Qui ne seraient que de l'immédiateté. Ce serait très anecdotique. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire des tableaux politiques au sens militant. Tu vois, je pense aux peintres politiques d'une époque, dans les années 70 et tout ça. Si on ne s'arrête pas un petit moment devant mes tableaux, c'est vrai qu'on peut ne pas les voir. C'est clair. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la vitesse de notre époque, histoire du manque d'arrêt qu'on a. Moi, j'ai envie que ma peinture arrête. Qui veut bien s'arrêter, qui veut bien... les autres, ceux qui passent, ils passent.